Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe. Bonsoir à tous les cinq.
Bonsoir Beth.
Émilie, votre choix de l'actu ce soir.
Malgré le retour du Covid, le masque n'est toujours pas obligatoire, mais il est fortement incité.
Et puis la campagne de vaccination patine, qui est vraiment éligible. Tout le monde peut aller se faire vacciner, c'est même fortement recommandé, pourtant c'est pas très clair. On fait le point avec le docteur Sebag, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, il sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ce soir.
Je vous parle ce soir de l'une des plus grandes stars de YouTube, Norman Tavo, avec 12 millions d'abonnés. Il est actuellement en garde à vue. 5 femmes l'accusent de viol.
Et on entendra des témoignages. Patrick, votre édito ce soir.
Débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale. Ce soir, comme chaque fois, clivant, inflammable et caricatural.
On en parle avec Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a accepté notre invitation. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de votre présence ce soir. Mathieu, dans le 5 sur 5.
Comment arrêter Kylian Mbappé? C'est la question qui est posée sur absolument tous les plateaux télé anglais. On va parler de football, de la Coupe du Monde, avec un invité spécial en direct de Doha, Marcel Desailly, champion du monde 98 et ami intime de Didier Deschamps, on peut le dire. On va dire un mot aussi pour le Maroc.
Bah voilà, comment arrêter le Maroc?
Le Maroc qui a sorti l'Espagne en 8e de finale au terme d'une séance de tir au but, c'était il y a quelques minutes.
On va le Maroc qualifié pour la première fois de son histoire
pour les quarts de finale.
Pour les quarts de finale, on y revient dans le 5 sur 5 de Mathieu. Pierre, votre œil ce soir.
Imaginez un des plus beaux poèmes de Blaise Cendrars, lu par Jean-Louis Trintignant, illustré par Enki Bilal et mis en musique par Jean-Louis Murat. Vous allez me dire, c'est Noël. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je crois au Père Noël.
C'est Noël avant l'heure et on croit au Père Noël avec vous, Pierre. Absolument. On est prêt à croire à n'importe quoi. Nos invités ce soir, Marc Lévy, qui depuis 2000, l'année 2000, de la sortie de son premier roman, est tout simplement l'auteur français le plus lu dans le monde. Un documentaire lui est consacré. Passionnant, on vous en montre des extraits. Il est notre invité ce soir. Il nous parle aussi de son 24e roman. Éteignez tout et la vie s'allume. N'éteignez pas votre télévision. C'est à vous, s'allume pour vous ce soir jusqu'à 20h55. Et puis on est ravis d'accueillir Redcar. C'est la nouvelle identité de Christine and the Queens qui sera tout à l'heure sur la scène de C'est à vous. Le dîner est préparé ce soir par Cédric Béchat, comme hier. Bertrand, êtes-vous comme hier à court de vannes?
Eh bien non, Elisabeth, bonsoir. Eh non, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. On le disait avec Mathieu, l'Espagne a été sortie du mondial il y a quelques minutes, mais ce soir, avec Cédric, nous rendons hommage à l'Espagne, puisque, chef, vous allez nous préparer...
des chipirons à l'encre, tout simplement, en boudin et en boudin.
Que ça vient de...
C'est ça, la vanne.
Bah, c'est un petit... Alors... voilà, on fait un accord actu, mais... C'est comme les vins.
Ouais,
voilà.
Sinon, j'en ai une pour Bertrand. Est-ce que vous connaissez le nom de la technique de pêche du chipiron à la ligne? Eh bien, c'est la turlute.
Eh bien, très bien. Eh bien, voilà. Ça, c'est la vanne. Eh bien, faites les vannes, je ferai la cuisine. Bonne émission.
Eh bien, j'enchaîne. Merci beaucoup, Cédric. N'hésitez pas à faire des blagues. Hein. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci à tous les deux. À tout à l'heure. C'est pas encore un projet, mais un débat. Et c'est depuis 17 heures qu'il se tient à l'Assemblée nationale sur un sujet qui risque d'enflammer l'hémicycle, l'immigration. Et immédiatement, Elisabeth Borne a posé les termes de ce débat.
La France est et restera fidèle à sa tradition d'asile, mais il est légitime de se poser la question de notre politique migratoire. Dire qui on veut, qui on peut accueillir et qui on ne veut pas, qui on ne peut pas accueillir. Nous ne cherchons pas à cliver ou à multiplier des mesures uniquement symboliques. Ce texte sera équilibré. Nous restons fidèles à nos valeurs et à notre volonté d'intégrer, mais on ne peut intégrer dignement que si notre droit est respecté fermement.
Un débat qui est l'objet de l'édito de Patrick Cohen. Un débat sans vote, sur l'immigration qui est en discussion. Donc, quel est le but exactement ?
L'espoir de trouver sinon un consensus, du moins un compromis pour faire voter le projet de loi qui sera débattu au printemps, la 29e loi sur l'asile et l'immigration. Depuis 30 ans, Gérald Darmanin assure qu'elle n'est pas encore écrite, qu'il va écouter tout le monde, mais les deux objectifs affichés, mieux expulsés et mieux intégrés, qui devraient plaire à droite et à gauche, servent de repoussoir à l'un et l'autre camp, à gauche et à droite, et pourraient finalement déplaire à tout le monde.
D'abord, mieux expulser, c'est-à-dire ?
Envoyer chez eux davantage d'étrangers délinquants, c'est le but, et cela rouvre le vieux débat sur la double peine. Gérald Darmanin a même cité le chiffre de 4000 individus supplémentaires par an, en supprimant des voies de recours, en réduisant le champ des protections dont bénéficient les immigrés qui habitent ici depuis l'enfance ou depuis plus de 10 ans. Mais la question n'est pas tant d'augmenter le nombre d'OQTF, obligation de quitter le territoire français, c'est de faire appliquer celles qui sont déjà prononcées, moins de 10% aujourd'hui, faute de suivi ou de moyens, et parce que les pays d'origine ne veulent pas reprendre leurs ressortissants. Et là, le ministre de l'Intérieur ne dit pas clairement comment il pourrait améliorer ce taux d'exécution, pas plus d'ailleurs que ses opposants. En Allemagne, plus de 50% des OQTF ou des OQTA, obligation de quitter l'Allemagne, sont suivis des faits. Pourquoi ? Parce qu'il y en a moins, parce que les Allemands prononcent des expulsions quand elles ont des chances d'être réalisées. La France est championne d'Europe des OQTF, elle est la première à les prononcer et la dernière à les réaliser.
Il s'agit aussi de réformer le droit d'asile.
Ce qu'a déjà fait la loi Collomb de 2018, avec la réduction à 6 mois de la demande d'asile, cette fois de l'instruction, pardon. Cette fois, l'idée serait de délivrer une OQTF, encore une, dès le rejet de la demande, sans attendre un éventuel recours, lequel resterait naturellement suspensif. Et puis, pour désengorger la Cour nationale du droit d'asile, un juge unique serait habilité à statuer.
Et côté accueil et intégration ?
Alors, il s'agit de régulariser, de donner un titre de séjour de plein droit à des travailleurs sans papier employés dans des secteurs en pénurie de main-d'œuvre, mesure activement soutenue par le chef Thierry Marx, qui vient d'être élu à la tête de l'UMI, le principal syndicat patronal de l'hôtellerie-restauration, secteur qui compterait 200 000 postes non pourvus et qui emploie beaucoup d'étrangers, souvent, parfois de façon illégale.
On se retrouve avec des gens qui peuvent travailler, qui sont capables et compétents, avec un haut potentiel comme Alex, hein, je dis devant lui, mais il le sait, qui effectivement peuvent à tout moment rester sur le trottoir et ne pas rentrer dans nos établissements alors qu'il nous manque du personnel.
Alors, il n'y a pas que la restauration. À la liste des métiers en tension, le gouvernement pourrait ajouter le bâtiment, le nettoyage, la logistique, la petite enfance avec les aides maternelles ou les auxiliaires de crèche. Mais il y a pas mal d'autres règles à écrire et que Gérald Darmanin a listées ce matin sur France Info. Combien d'ancienneté faudra-t-il justifier sur le sol national ? 2, 3 ou 5 ans. Aujourd'hui, circulaire Valls de 2012, il faut minimum 3 ans sur le territoire, 24 feuilles de paye et une promesse d'embauche en CDI. Quel titre de séjour serait délivré ? Le projet prévoit pour l'instant 1 an renouvelable, ce qui ne permet, dans un premier temps, ce qui ne permet pas un regroupement familial, il faut 18 mois, et ce qui fait hurler les associations d'aide aux immigrés. Enfin, est-ce qu'il faut quantifier et donc limiter le nombre de personnes régularisées ? Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a parlé de quelques dizaines de milliers par an. Bah, c'est ce que permet déjà la circulaire Valls. Environ 30 000 régularisations chaque année depuis son entrée en vigueur. Mais même avec toutes ces précautions, la droite LR a de nouveau dénoncé cet après-midi un projet de régularisation massive dont elle ne veut pas. Pas de papier aux clandestins, c'est aussi la ligne du RN. Au même moment, devant l'Assemblée nationale, une quinzaine d'associations d'aide aux exilés, soutenues par des députés de gauche, fustigeaient un projet hostile aux immigrés. Vous ne pourrez pas trouver aujourd'hui de sujet plus clivant et passionnel.
Est-ce qu'on peut tenter de dépassionner le débat, Didier Lesky, ce soir ? Déjà, la régularisation de certains sans-papiers dans des métiers en tension, c'est quoi ? C'est du bon sens économique ?
Enfin, c'est du bon sens et en tout cas, c'est pratiqué depuis longtemps, puisque la particularité de notre système, depuis qu'en 1997, Jean-Pierre Chevènement avait introduit cette idée de la régularisation au fil de l'eau, on fait une régularisation de 30-35 000 personnes tous les ans, et qui sont pour partie des travailleurs, pour d'autres des personnes qui ont des enfants scolarisés. C'est une particularité de notre système qui fait qu'on n'a pas ces périodes de régularisation d'un coup. L'Italie, à un moment donné, a parlé de 200 000 régularisations, mais ils en ont fait 80 000. L'Allemagne dit qu'elle va régulariser, mais elle pose des conditions qui sont en réalité assez strictes. Hein, on va voir comment tout ça évolue.
Et ça s'est fait depuis 25 ans sous tous les gouvernements.
Ça s'est fait depuis...
Sous Sarkozy, il y avait aussi une trentaine de mille...
Absolument, il y a toujours eu... C'est un dispositif qui permet justement de régulariser des personnes qui sont là, 3 ans, 24 mois, 8 fiches de paye que sur les 24 derniers mois. Enfin, on voit bien qu'il y a une régularisation par le travail. Et la difficulté des métiers en tension... C'est les prérequis, parce que je rappelle quand même qu'on a donné un titre de séjour à près de 200 000 personnes au titre de l'asile ces 5 dernières années, que beaucoup sont aujourd'hui sans emploi. Et donc, je suis toujours un peu méfiant sur cette idée de métier en tension, pour deux raisons. Il y a des métiers en tension qui supposent beaucoup de qualifications. L'exemple type, c'est les médecins ou les informaticiens qu'on fait venir tous les ans de manière importante et qui peuvent manquer du reste au pays de départ. Et puis, il y a d'autres métiers où le préalable, c'est de connaître le français. Et toutes les immigrations qui sont ici, en particulier celles qui ont obtenu des titres de séjour, répondent pas immédiatement aux spécificités demandées par les employeurs. Et enfin, il faut faire attention, mais bien évidemment, il faut régulariser, et le ministre du Travail, le ministre de l'Intérieur a raison de le dire, mais il faut faire attention aux conditions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir du principe que tous les patrons jouent le jeu. Moi, j'ai été préfet en Seine-Saint-Denis pendant 4 ans, j'ai fait des régularisations. Malheureusement, je suis aperçu que les personnes, une fois régularisées, n'étaient plus employées par l'employeur. Et donc, je pense qu'il faut lier ça peut-être à un contrat de travail en bonne et due forme.
Pour l'instant, il faut travailler, les contrats, c'est un an pour obtenir, il faut avoir un contrat d'un an
Le titre de séjour serait d'un an comme n'importe quel titre de séjour et qui après est renouvelable.
Ça veut dire qu'au bout d'un an, si les métiers ne sont plus en tension, on est renvoyé chez soi?
Alors, d'abord, l'idée qu'un métier n'est plus en tension au bout d'un an ne correspond pas à ce que nous racontent...
les restaurateurs, par exemple.
Les restaurateurs ou d'autres. Et donc, c'est pour ça que je suis très... très attentif à cette idée que les restaurateurs qui nous expliquent qu'il y a des métiers en tension sur de la longue durée, eh bien, assortissent la régularisation, je dirais, d'un véritable contrat de travail au moins d'un an ou d'un contrat de travail durant indéterminé. On a trop vu, puisque c'est l'objet de la circulaire Valls, des régularisations simplement sur la base d'une promesse d'emploi. Mmh. Une promesse d'emploi, ce n'est pas un emploi.
Donc vous êtes vigilant, comme par exemple la droite et notamment les Républicains qui alertent sur les risques de régularisation massive?
Alors, je pense qu'il y a une sorte d'hypocrisie, parce que, comme l'a dit Patrick Cohen, il y a une régularisation qui se fait au fil de l'eau et qui est importante et qui, en plus, du point de vue du travail, se rajoute aux 30-35 000 titres de séjour qui sont donnés au titre du travail. Même pendant la période du Covid, puisque c'est l'Office français de l'immigration qui est en charge en partie de ces procédures, on continuait à faire venir des travailleurs, et en particulier dans les hôpitaux, et du reste, sans s'interroger tout le temps, puisque j'ai entendu une partie du débat, sur l'impact que cela peut avoir sur les pays de départ, qui n'est pas rien.
Donc ce ne serait pas une régularisation si massive que ça, si on vous écoute...
En tout cas, de toute façon, moi, je ne suis pas en charge du curseur, si vous voulez. Mais,
et on ne connaît pas toutes les règles encore,
mais
puisque c'est pas écrit.
Le ministre de l'Intérieur et le ministre du Travail ont parlé d'une régularisation limitée. Bon, mais la nomenclature des emplois en tension, c'est quelque chose qu'on...
La restauration n'en fait pas partie actuellement.
Oui, elle peut en faire partie. D'abord, il y a déjà beaucoup de travailleurs étrangers. La difficulté de la restauration, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même l'articulation entre le niveau de salaire et le logement. Et je rappelle par exemple qu'une des difficultés que nous avons, et qui je crois n'a pas été abordée, en tout cas je ne l'ai pas entendu dans le débat, c'est le problème du logement. On est aujourd'hui dans une situation de baisse de la production de logements, et je rappelle par exemple que 20% des personnes qu'on trouve sur les trottoirs parisiens dans des campements qui défraient la chronique régulièrement, même si on les évacue, sont des personnes qui ont déjà un titre de séjour et qui n'arrivent pas à trouver un logement. Et la particularité du système global, et qui est une difficulté sociale, c'est la concentration de plus en plus forte de l'immigration, quelle que soit son origine d'introduction sur le territoire français, dans certains quartiers, alors que le centre des villes voit la diminution de sa part des immigrés dans la population globale. C'est Paris, si vous voulez. Paris, avec des arrondissements qui étaient, dans mon jeune temps, des arrondissements où venaient les immigrés. Et aujourd'hui, quand j'y vais, je constate qu'il y a de moins en moins d'immigrés, de plus en plus de jeunes, et qui sont servis peut-être par des personnes qui n'ont pas de...
De papier. Qui ne sont pas en situation régulière.
Et qui ne sont pas payés à la hauteur qui permettrait, par exemple, pour eux de vivre à côté de leur travail.
Mmh. Il y a eu 29 textes de loi en 30 ans, le rappelait Patrick. Comment est-ce qu'on explique cette frénésie législative ?
Alors, j'entends ça depuis un moment, mais d'abord, l'ensemble des pays d'Europe connaissent, je dirais, des modifications
toute
législatives.
Toute l'Europe fait pareil, quoi.
Oui, toute l'Europe fait pareil, on
voit
bien.
S'adapte, en fait, au monde qui change.
La deuxième chose, c'est que il y a une grande part de l'immigration qui est la projection du chaos du monde. Et il y a quelque chose qui s'est accéléré au tournant des années 70-80. Hein, on peut penser au boat people, on peut penser après justement à l'Iran dont on parle aujourd'hui, et puis à d'autres. Et du reste, il n'y a pas qu'une inflation, je dirais, législative. Gérard Noiriel, dans son livre sur le creuset français, explique qu'il n'y a pas d'études sur l'immigration vraiment avant le début des années 80, et c'est à partir des années 80 qu'on s'intéresse vraiment à la question. Et on s'intéresse à la question parce qu'il y a une transformation sociale de l'immigration. On a arrêté l'immigration de travail parce qu'en même temps, il y a eu la crise économique qui s'est accentuée au début des années 80. On a une immigration qui est de plus en plus décorrélée du travail et donc qui pose des problèmes d'intégration qui sont nouveaux. Et en plus, on a, nous, une spécificité française, et je reviendrai sur ce qu'a dit Patrick Cohen sur l'Allemagne, une spécificité française, c'est qu'à partir de la fin des années 80, disons au milieu de la fin des années 80, on a une immigration du sud du monde qui est plus importante que l'immigration européenne au sens large, et en particulier du sud de l'Europe. Et ce n'est pas le cas de l'Allemagne. L'Allemagne, aujourd'hui, la majorité des immigrants en Allemagne viennent soit des anciens pays de l'Est, Roumanie, Pologne, Fédération de Russie, soit de la Turquie. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à expulser plus facilement. C'est-à-dire que quand on regarde les sans-papiers qu'ils expulsent, quand on regarde la nomenclature des sans-papiers, ils arrivent à obtenir des laissez-passer consulaires de pays dont l'aspiration est d'être en bonne entente avec l'Union européenne, même de vouloir y rentrer. Et nous, c'est plus compliqué avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, alors même que nous délivrons des visas pour ces pays.
Mais corrélé à nouveau l'immigration avec l'état de l'emploi et du travail en France, ça, c'est une bonne idée.
Je pense que c'est d'autant plus une bonne idée que je pense que le problème n'est pas un problème de nombre. Et j'entends bien dans les débats la question, il y en a trop, pas assez, etc. Le problème profond, il est un problème social avec le fait que la déstructuration de notre industrie s'est accompagnée d'une déstructuration de ce qui faisait le tissu social d'intégration. Hein, un département comme la Seine-Saint-Denis ou comme d'autres, il y avait un espoir collectif qui était porté par ce qu'on appelait le mouvement ouvrier et qui a disparu. Or, il prenait en charge. Et on peut penser au christianisme social. Et en plus, on avait des populations qui n'ont pas toujours été accueillis de manière parfaite, mais avec lesquelles il y avait, je dirais, un espace culturel, politique commun qui faisait aussi les débats. On peut penser à l'immigration espagnole. Hein. En 1936, on accueille très bien, par exemple, les femmes qui sont obligées de partir parce que les armées de Franco arrivent. On accueille moins bien les hommes. Mais après, il y a des organisations, le Parti communiste, les organisations syndicales, l'Église, et avec des débats très importants. On peut penser à Bernanos, hein, qui dit, voilà, qui pourrait faire partie de ce que Patrick Cohen appelle la droite, enfin je ne sais pas, mais en tout cas qui dit on ne peut pas au nom de ma foi tuer les républicains espagnols. Aujourd'hui, on a une peur qui se fait sur une partie de l'immigration et qui est accentuée par le visage qu'on a du chaos du monde, hein, et qui peut angoisser légitimement une partie de la population.
Et pour revenir justement à la problématique actuelle, en attendant de définir ce que seront ces métiers en tension, il y a la réalité du travail et la réalité des symboles aussi, les symboles que peuvent représenter par exemple les Jeux Olympiques de Paris. Certains chantiers de construction emploient des travailleurs sans papier. Louis Amar et Anaïs Recouli, nos reporters, ont rencontré Moussa, originaire du Mali. Il vit en France depuis 2008 et il travaille sur ses futures infrastructures des Jeux depuis le lancement des travaux.
Tu appelles, il te demande si tu as un carte ou pas, si tu as un titre de séjour ou pas. Toujours on dit oui. J'ai envoyé le document que j'avais. J'ai travaillé sous le nom de Alias.
Donc c'était un faux nom.
Exactement. On sait que c'est illégal, mais on préfère de faire ça pour survivre que de la faire autre chose. On travaille chantier des Jeux Olympiques. Nous, on voit ça comme une contribution aussi de notre part. Parce qu'on a commencé des chantiers de A à Z. On a contribué. On n'a pas demandé autre chose. On veut seulement de Régularisation, ça va beaucoup pour nous. Peut-être les autres voient ça autrement, mais pour nous, c'est quelque chose d'important.
On se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle des entreprises, de la part des employeurs. Votre réaction
à tout ça? Là, il y a un problème du contrôle. C'est pour ça que dans les propositions justement du ministre du Travail, du ministre de l'Intérieur, il y a l'idée de renforcer le contrôle et de les rendre plus rapides. C'est le sujet de l'inspection du travail, hein, le contrôle. Et puis après, on a ces situations, c'est-à-dire l'utilisation d'un alias, d'un nom, et qui est souvent un nom vendu. Par quelqu'un, en contrepartie cette vente, tous les mois il va donner une partie de son salaire pour utiliser cet alias, hein, qui va permettre à la personne de travailler. Or, il y a un système qui n'est pas un système de contrôle vraiment, puisque bien souvent les entrepreneurs, les patrons, eh bien, je dirais comme d'autres secteurs de la société, ne contrôlent pas automatiquement la régularité du séjour, en tout cas ne s'adressent pas à la préfecture en disant est-ce que ce monsieur, ou au policier, est-ce que ce monsieur il a le droit de travailler ou pas. C'est un problème et ça génère des amendes, hein, qui sont régulièrement données, mais pas suffisamment. Et le bâtiment est historiquement un lieu avec des sous-traitants où on a ce problème-là, mais c'est historique. La question pour nous, c'est de savoir si la régularisation va amener ces mêmes patrons à avoir un comportement légitime. Et là, on peut dire qu'il y a sans doute une partie du patronat qui est tout à fait prêt à jouer le jeu. Il n'est pas certain que l'ensemble, en particulier sur des métiers où les choses sont beaucoup plus fluides, eh bien, cela soit vrai.
Juste sur les OQTF, qui sont les obligations de quitter le territoire français, le gouvernement veut pouvoir accélérer ces expulsions, notamment dès le rejet d'une demande d'asile en première instance, sans attendre un éventuel recours. Patrick l'a rappelé. Il y a vraiment des abus en matière de recours.
Alors, quand il faut faire attention. Il y aura toujours un recours, puisque l'idée est d'accélérer le traitement par la Cour nationale du droit d'asile du recours, hein. Mais il y a ce qu'on appelle les pays sûrs, où là, le recours à la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas suspensif de l'expulsion possible. C'est vers l'Albanie ou la Géorgie. Les Géorgiens sont actuellement les quatrièmes demandeurs d'asile en France. Les Albanais ont été pendant très longtemps en tête de la demande d'asile en France. Aujourd'hui, ce sont plutôt des Afghans. Mais en ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français, le problème, c'est d'abord... Enfin, je dirais...
Les accords, oui.
Il n'y a pas d'accord. Les laissez-passer consulaires. Oui. C'est-à-dire le fait que les pays acceptent de reprendre leurs ressortissants. Et c'est une question importante parce que quand il y a eu les précédentes grandes vagues de régularisation, je dirais, avant le fil de l'eau des années 80-90, les chercheurs qui ont travaillé là-dessus, je pense à Patrick Veil, à d'autres, eh bien, qu'est-ce qu'on a constaté ? Qu'il y avait une grande proportion, si c'était la majorité des gens, qui étaient venus avec des visas de court séjour. Et si on veut avoir quelque chose qui soit régulé dans les deux sens, hein, avec plusieurs dizaines de milliers de visas qui sont donnés tous les ans, l'Algérie, on est monté à près de 500 000 visas, eh bien, il faut que les pays acceptent de reprendre ceux qui ne jouent pas le jeu du visa, parce que sinon, ça pénalise l'ensemble. Hein. On parle beaucoup, par exemple, du Maroc actuellement. J'ai même lu un article très long dans un quotidien de référence, comme on dit, hein, qui disait au Maroc, les gens s'émeuvent. Bon, c'était des parents qui disaient, mes enfants sont allés au lycée français, donc c'est pas n'importe quel parent, parce que ça coûte quand même un peu. Hein. Et puis, l'enfant est devenu étudiant ici. 10% des étudiants étrangers présents en France sont des étudiants marocains. Là, on n'a jamais fait venir autant de travailleurs saisonniers marocains que cette année. On a fait 10 000 titres de séjour au titre du travail pour des informaticiens, etc. Bon, et en même temps, on a quelques dizaines de laissez-passer consulaires. Je crois que vous aviez, puisque je vous avais écouté, invité l'ancien ambassadeur de France en Algérie qui a écrit un livre là-dessus. Il explique parfaitement cela, c'est-à-dire quelque chose qui fait qu'on ne joue pas le jeu. Or, si on ne joue pas le jeu... Eh bien, à un moment donné, il y a une défiance qui s'installe et cette défiance, elle irrigue une partie de la population parce que, en plus, il faut aborder l'immigration avec un S au pluriel. Toutes les immigrations ne posent pas les mêmes problèmes de dynamique et les mêmes problèmes d'insertion. Et il y a une angoisse qu'on ne peut pas nier et qui est liée au fait que, comme je vous l'ai dit, il y a une part de projection du chaos du monde avec des écarts culturels qui s'agrandissent.
Merci beaucoup Didier Leski, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'être venu ce soir nous parler de ce sujet complexe sur le plateau de C'est à vous. Dans l'actualité,
merci à vous.
Le Covid, 50 000 nouveaux cas par jour en moyenne, 20 000 hospitalisations en lien avec l'épidémie, ce qui fait que le gouvernement demande aux Français de porter à nouveau le masque.
Oui, mais rien que des incitations, aucune obligation. Tous en cœur au gouvernement le répète pour le moment, il compte sur la responsabilité des Français.
On s'est tranché au gouvernement, et j'étais encore ministre de la Santé, lorsqu'on avait décidé qu'on arrêtait l'obligation de port de masque dans la mesure où toute l'information avait été donnée et qu'en responsabilité, les Français montraient qu'ils se protégeaient.
Les Français, ils savent comment ça marche. Moi, je leur fais confiance. Il faut simplement dire, ça c'est le rôle des politiques et des scientifiques d'ailleurs, l'épidémie revient, l'épidémie est là. Ne désarmons pas les gestes barrières, ce sont la meilleure protection. Notre rôle, c'est d'abord de redire, attention, faites-le, portez le masque.
Pour l'instant, je reste sur cette position de conseiller très fortement. Mais si on continue à augmenter les contaminations, je vous l'ai dit, mon bras ne tremblera pas s'il faut décider l'obligation du masque.
Voilà pour le discours commun et officiel. Pour être cohérent, il faut donc que les paroles soient suivies des actes. Donc vous allez de plus en plus voir des ministres masqués quand ils sont dans des endroits clos ou quand la distanciation sociale n'est plus possible, comme à l'Assemblée nationale. C'est flagrant. Regardez, si on joue au jeu des 7 erreurs dans l'hémicycle. À gauche, c'était la semaine dernière. À droite, c'est aujourd'hui. Voilà, tous se sont remis à porter le masque. Autre lieu où il est fortement recommandé, les transports. Alors là, je demande le ministre délégué chargé des transports, Clément Beaune, qui a montré l'exemple hier avec ce selfie masqué dans le train. Dans les transports, portons le masque. Retrouvons les gestes barrières, des messages d'incitation. Est-ce qu'ils passent auprès des Français? C'est ce que nos reporters Camille Schmitt et Audrey Payas sont allés vérifier dans l'un des endroits où il y a le plus de promiscuité et de monde en ce moment, à 3 semaines de Noël, les sorties de métro, devant les grands magasins. Et à une exception près, les passants se disent tous responsables.
Je le remets carrément, je pense qu'il est nécessaire. Hein.
Dans le métro, dans l'autobus, sinon à l'extérieur, non. Là, je l'ai mis parce qu'il y a beaucoup de monde, sinon dans les magasins, je ne le mets pas systématiquement.
Dans les transports, en commun.
Uniquement ?
Uniquement. Pour me rassurer, moi, pour aussi mon entourage.
Il y a un regain du Covid, donc vu dans les transports qu'ils conseillent de prendre le masque, j'ai pris le masque.
Je pense qu'on est assez grand pour savoir ce qu'il vaut mieux faire pour son bien-être et pour ses proches. Et on n'est pas obligé d'attendre que le gouvernement nous donne des conseils ou des ordres.
Bonsoir, docteur Robert Sebag.
Bonsoir.
Infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Des mesures d'encouragement du port du masque plutôt que des mesures coercitives. Coercitives et le retour du masque obligatoire, c'est la bonne méthode?
Les Français ont tourné la page. Il fallait pas supprimer cette obligation au mois de juin. Il y avait des raisons peut-être électorales à l'époque, parce que les gens ne réclamaient rien. Les gens le portaient régulièrement, il n'y avait pas de problème. Et puis on leur a dit, elle le retirait. Et aujourd'hui, ça me paraît extrêmement difficile, parce que moi, je vois les chiffres, je vois ce qui se passe à l'hôpital. 50 000 testés et donc comptabilisés, parce que la réalité, les autotests, vous pouvez multiplier par 2 ou 3. On est à 1100 en soins critiques. On a 3 épidémies en même temps. Alors une qui est particulière, qui est bronchiolite chez les enfants.
Mais qui touche aussi des adultes.
Qui touche des personnes âgées. C'est le virus respiratoire syncytial qui touche effectivement des immunodéprimés, des personnes âgées qui ont un certain nombre d'autres infections. La grippe. Et si vous voulez, d'habitude, vous avez un décalage sur les épidémies. Bon, là, il y a la Covid. En général, la bronchiolite, si vous voulez, c'est effectivement octobre-novembre. Et la grippe arrive un tout petit peu plus tard, décembre-janvier. Là, ça arrive, la grippe est partie aussi. Comme on a été protégé pendant 2 ans, on n'a pas eu de forte grippe, pas de très peu de gastro-entérite, confinement, les gestes barrières. Là, la grippe semble nous inquiéter. C'est du H3N2 qui est très contagieux. Et on est très bas en vaccination. Enfin, moi, je veux dire, vous avez la vaccination Covid, il y a la vaccination grippe aussi. Et ce pays qui est le pays de Pasteur, si vous voulez, où la peur des maladies, la peur du vaccin a remplacé la peur des maladies. On oublie ce qu'était la polio, la diphtérie, le tétanos, un certain nombre de maladies. Et aujourd'hui, alors c'est vrai qu'il n'a pas une bonne réputation, ce vaccin Covid. Ça, je reviens sur le Covid parce que les gens disent, écoutez, moi j'ai eu 2 doses, j'ai eu 3 doses, j'ai été contaminé. Alors on a beau expliquer qu'effectivement il est assez faible en termes de transmission, par contre il est extrêmement efficace sur les formes graves. Et c'est les formes graves qui nous font peur à l'hôpital, si vous voulez.
En plus, il y a des nouvelles versions qui...
On a des bivalents qui prennent la souche originale, plus la souche originelle Wuhan, plus les Omicron avec le BA4, Omicron. BA5. On a aujourd'hui un nouveau variant qui est le BQ1.1, si vous voulez, qui est très contagieux, peut-être un peu moins virulent. Mais on est à 50 à 60 décès. Moi, je ne veux pas être alarmiste, c'est la réalité.
Ah non, j'ai les derniers chiffres. On a passé 400. Le cap des 100 morts du Covid par jour.
Oui, mais on a...
117 sur les dernières 24 heures.
Vous avez raison, on ne va pas faire de la comptabilité morbide, mais c'est énorme. C'est énorme. Et la grippe, tous les ans, ça peut être 5 000 à 8 000 en plus.
Parmi les hospitalisations en soins intensifs, en réanimation, il n'y a pas forcément que des personnes âgées à l'hôpital actuellement.
Vous avez une majorité. On a eu dans les vagues précédentes, effectivement, des jeunes qui avaient eu des problèmes. Aujourd'hui, on a en particulier des personnes âgées qui n'ont pas eu le rappel, parce que, si vous voulez, l'immunité avec l'âge décroît, et il y a une efficacité des vaccins qu'il faut renouveler. 80, c'est tous les 3 mois, tous les 6 mois, et vous avez les comorbidités.
Plus de 80, tous les 3 mois, il faut renouveler son vaccin.
Oui. Alors, les gens sont perdus avec 3e, 4e dose. Il faut dire, vous avez plus de 60 ans, vous avez eu votre vaccin ou une infection il y a 6 mois ou plus, vous devez vous faire vacciner. Vous avez plus de 80 ans, vous avez des comorbidités, vous vous faites vacciner. Alors, ils ne savent plus, c'est 3e, 4e. Il faut avoir des messages simples. Et puis après, pardon, ce n'est pas un coup de gueule, mais je l'ai dit plusieurs fois, nous avons la communication, les recommandations, c'est important. Nous avons en France un système qui s'appelle les caisses d'assurance maladie. Vous avez des caisses régionales d'assurance maladie. Elles ont le nom des gens, elles ont leur âge, elles ont le nom de leur médecin, elles ont le nom de leur traitement.
Il faut les
convoquer. C'est ce qu'ont fait les Espagnols.
Les Anglais
ça suffit
le
pas.
Font aussi.
Oui, vous avez vu les chiffres de vaccination des Anglais après 60 ans? C'est l'inverse de nous. Nous, on est à 10-15% de vaccinés. Eux, ils sont à 75%. Sur les personnes à risque.
Il faut les convoquer individuellement.
Il faut les convoquer. C'est une lettre ne suffit pas en disant eh ben vous savez, vous êtes éligible à la vaccination.
Si on a toujours l'appli tous anti-Covid, on a le rappel. Il y a une alerte
oui,
normalement
mais
qui s'affiche.
Les gens, ils ont tourné un peu la page. l'énergie aujourd'hui, tout ce qui se passe, un petit peu le pouvoir d'achat. Et c'est vrai, mais pourtant, ce virus est là.
Bon.
Ce virus est là et on a les moyens. On a une boîte à outils remarquable aujourd'hui. Sur la Covid, on a le Paxlovid sur les traitements, sur les gens, vous voyez, dans les 5 jours.
On y revient dans un instant.
Et puis, vous avez la crise de la médecine de ville. Parce que, si vous voulez, il faut regarder le problème de santé. Il y a l'hôpital, mais il n'y a plus de relais par les médecins généralistes. Ils sont aussi en grève. Vous avez des déserts médicaux. Et donc, ça nous effraie un petit peu, quand même.
En tout cas, c'est vrai qu'il y a un flou sur qui est éligible ou pas au vaccin. Oui, le ministre de la Santé a rappelé cet après-midi à l'Assemblée nationale que tout le monde, par principe,
oui.
est éligible. Mais à la pharmacie, c'est compliqué. C'est ce qu'on peut
Parce
constater.
Parce qu'il n'y a plus les centres de vaccination.
Vous et Audrey Payas, juste reportage et votre réaction après.
Je me demandais s'il fallait encore en faire une autre pour l'hiver.
Ils n'ont pas été assez clairs.
Pour le moment, j'ai les 4 doses, mais je ne ferai pas la 5e. J'en ai marre des rappels, voilà.
On nous a parlé beaucoup des vaccins pendant un certain temps, et maintenant, c'est un peu n'importe quoi, on n'entend plus parler.
Les gens qui ont eu 4 doses, est-ce qu'il faut refaire 6 mois après un autre rappel? Ils ne le disent pas trop dans les campagnes. Voilà, je trouve que c'est pas très clair, ça.
C'est dommage qu'on nous dise pas, mais maintenant, oui, il faut se faire vacciner pour la 5e dose.
Les gens sont perdus, 4e, 5e, 3e, 2e. Oui. Il faut leur dire, vous avez été vacciné, quel que soit le numéro de la dose, il y a plus de 6 mois, vous vous faites vacciner. Allez-y. Vous avez plus de 80 ans, 3 mois. Voilà.
D'accord. Donc, 3 mois pour les plus de 80 ans,
oui.
6 mois pour les moins de 80 ans.
Moins de 80 ans. Et après, vous avez toutes les personnes plus jeunes, ou même peut-être, qui êtes en contact avec des personnes à risque. Eux aussi,
à l'approche des fêtes,
on
ne
va
y aller.
Pas interdire la vaccination à quiconque. Il faut le dire, il n'y a pas de surdosage en vaccination. Vous n'avez pas été vacciné, vous avez eu une infection il y a plus de 6 mois, vous faites vacciner. Arrêtez 3e, 4e.
Donc ça va être un éternel recommencement aussi.
Mais aujourd'hui,
on peut dire qu'on n'aura jamais fini
avec
le vaccin.
Il est là, ce virus. On n'y peut rien, effectivement, il est là. Il n'est pas encore endémique, il est encore épidémique, mais il peut devenir endémique comme la grippe, effectivement. Tous les hivers, il faudra peut-être se faire vacciner. On verra aussi les variants, parce qu'ils mutent, ils mutent, ils mutent.
Vous parliez des centres de vaccination ? Oui. Il manque les centres de vaccination. Ils étaient vides à la fin.
Non, on n'entend plus parler de centres de vaccination. Donc les gens ne savent pas. Est-ce que les pharmaciens et les médecins pourront effectivement assurer la vaccination pour le plus grand nombre?
Il y a de la place dans les pharmacies. Hein. J'ai testé ça le week-end dernier.
Oui.
Il n'y a pas de problème.
C'est vrai, sur Doctolib, Patrick a pris ce rendez-vous, j'ai pris mon rendez-vous, on était vaccinés samedi et lundi.
On a les vaccins, ils sont gratuits, ils sont efficaces sur les formes graves. On a beau le répéter. Alors après, il y a le port du masque, effectivement, les transports en commun. Moi, je suis frappé dans le métro, je prends le métro, alors moi, je mets le masque. Vous voyez, je ne l'ai pas mis ici. Je me suis posé la question. Je considère que c'est ventilé, qu'il y a quand même une distance qui est respectée, mais je le mets, moi, dans les transports en commun. Le métro, c'est impressionnant, quoi. C'est 5% des gens qui portent le masque. Alors là aussi, est-ce qu'il faut la rendre... Ça passe plus, l'obligation ne passe pas. C'est pas audible. Moi, ça me rend triste, hein, mais...
Vous l'avez évoqué d'un mot. Outre les vaccins, il existe un traitement qui
a confirmé
sa capacité à diminuer le risque de...
Deux comprimés par jour pendant 5 jours.
Mais pourquoi est-il si peu prescrit?
Ben, il faut, là aussi, c'est de l'information vis-à-vis des médecins. À l'hôpital, bien sûr, on le connaît et on le prescrit. Alors, effectivement, il faut le faire dès le début, si vous voulez,
pendant
la phase virale. Oui, dès le début des symptômes et pas attendre après 7 jours. Parce que là, vous passez dans la phase immunitaire. Donc, c'est dans la première phase. On a un vaccin qui est efficace, on a ça, on a les gestes barrières. si vous voulez, on a des moyens, on a des tests, on a tout, on a cette boîte à outils. Et la grippe. Bon, je suis frappé par le taux extrême. C'est un peu plus de 5 millions de personnes seulement qui sont faites vacciner contre la grippe.
Pourtant, là, les personnes concernées reçoivent
une lettre à domicile.
Oui,
mais enfin, on ne vérifie pas s'ils l'ont ou pas, s'ils y vont ou pas.
Donc, il faut convoquer.
Mais vous savez, en Suède, par exemple, vous recevez une lettre en vous disant, voilà, vous avez tel âge, vous devez faire une coloscopie pour éviter le cancer du côlon. Mmh. Si vous ne la faites pas, vous n'êtes plus remboursé. On peut faire ça, on peut dire, voilà, vous êtes éligible à la vaccination contre la grippe, vous ne la faites pas, ben vous pouvez faire une complication pulmonaire, une pneumonie. Je ne suis pas pour une rigidité, absolument être fliqué les gens, mais il y a un moment, ça ne suffit pas. La preuve, les gens reçoivent la lettre pour la grippe, on la reçoit tous les ans. Covid, un peu moins.
Mmh. Merci beaucoup, docteur Robert Sebag. En colère ce soir sur le plateau de C'est à vous, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Vous restez avec nous pour évoquer le reste de l'actualité. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouefsi. Mohamed, vous nous parlez d'une star d'Internet.
Oui.
Que tous nos enfants connaissent, enfants ou petits-enfants, placés en garde à vue après des accusations de viol et de corruption de mineurs.
Oui, si vous ne connaissez pas les vidéos de Norman Tavo, soyez certains que vos enfants les ont déjà vues, comme celle-ci.
Je me suis dit que j'allais en profiter pour devenir un mec, un vrai, genre, un peu viril et tout. Bon, je crois que c'est plutôt réussi.
Faux ! La virilité !
C'est l'une des grandes stars françaises de YouTube avec 12 millions d'abonnés. Après un an d'enquête de la police, il a été placé en garde à vue hier, accusé par une plaignante de corruption de mineurs et par 5 autres de viol. Une affaire qui a débuté dès 2020 avec le témoignage d'une jeune Canadienne, Maggie Desmarais. Elle estime avoir été manipulée par Norman Tavo afin d'obtenir des photos et vidéos à caractère sexuel alors qu'elle n'avait que 16 ans.
Je vais envoyer une photo de moi en débardeur, puis... Ça s'est comme juste jamais arrêté. C'était comme, ah ben, sans le débardeur, ah puis sans le soutif, ah puis sans la culotte. Puis c'était comme si c'était jamais assez. Puis ouais, si ça faisait pas son affaire, ben, il sortait le, ah ben, je vais te supprimer. Ou je voyais que ça, il s'intéressait moins à ma vie normale. Puis c'était plus comme mon corps ou justement mon âge parce que ça avait l'air de, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un peu une obsession sur le fait que j'étais jeune.
La garde à vue de Norman Tavo a été prolongée aujourd'hui et Maggie Desmarais est actuellement en France afin qu'une confrontation soit organisée. Durant les dernières semaines, un autre YouTuber a lui aussi été accusé de violence sexuelle, Léo Grasset, connu pour ses vidéos de vulgarisation scientifique sous le nom de Dirty Biology. Il fait actuellement l'objet de 2 enquêtes, la première pour harcèlement sexuel et la seconde rendue publique il y a quelques jours pour viol suite à une plainte déposée par Léa Massiani, étudiante en journalisme. Elle a accepté de nous livrer son témoignage.
Je suis endormie dans son lit. Lui était sous la douche. Et je me suis réveillée avec... en sentant ses doigts en moi. Ensuite, moi, j'étais tétanisée. Je n'ai pas réagi. Il s'est mis sur moi. Et il m'a violée. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, suite à ça, j'ai eu pas mal de crises d'angoisse. Je ne savais pas d'où ça venait. J'étais pas encore persuadée que c'était lié à ça. Mais aujourd'hui, je le suis parce que c'est vraiment un gros traumatisme.
Léo Grasset s'est exprimé sur ces accusations dans une vidéo sur YouTube.
Si vous n'avez pas lu l'article, il en ressort que j'aurais une conception floue du consentement, des comportements toxiques variés avec les femmes, incluant le stalking, le lovebombing, la manipulation, allant jusqu'à une accusation de viol. Dans cette vidéo, je veux répondre à tout ça. J'ai une vie amoureuse parfois bordélique, et il m'arrive aussi de faire des blagues de gros beauf, mais cependant, l'article dresse un portrait de moi qui est malhonnête. Il construit un personnage toxique à coups d'insinuations et de citations tronquées.
Contactés, ses avocats, Maître Heidel et Loyer, nous ont affirmé que leur client, Léo Grasset, contestait fermement l'ensemble des accusations portées à sa connaissance et qu'il se défendrait pleinement devant les autorités judiciaires. Il n'est à ce jour pas mis en examen et donc présumé innocent. Journaliste d'investigation à Mediapart, Lénaïque Bredoux a enquêté sur cette affaire. En plus du volet judiciaire, il faut selon elle désormais attendre la réponse des plateformes numériques à ces accusations.
Quelle va être l'attitude de ces plateformes? Quelles sanctions vont-elles mettre en place indépendamment d'éventuelles sanctions judiciaires? C'est tout à fait indépendant. comme une forme d'employeur. Alors bien sûr, il n'y a pas lien de salarié en fait entre un YouTuber et les plateformes et la plateforme YouTube, mais il y a un lien de responsabilité, il y a un lien, voilà, même matériel, monétaire en fait. Les YouTubers gagnent leur vie grâce à la monétisation de leurs vidéos, et en fait, les différentes plateformes ont plein de moyens en fait de sanctionner des YouTubers ou des streamers qui auraient un comportement problématique.
YouTube a annoncé qu'elle réfléchissait à d'éventuelles sanctions contre les deux YouTubeurs dont les vidéos sont à ce jour toujours disponibles sur Internet.
Merci Mohamed, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Mathieu, on commence ce 5 sur 5 avec un nouveau rendez-vous. Bah tiens, tourné vers le mondial.
Et qui dit nouveau rendez-vous, Babette dit nouveau jingle.
Il faut me dire très vite là.
Et on va retrouver un invité spécial en direct de Doha, Babette. C'est Marcel Desailly, champion du monde 98.
Déjà !
Consultant beIN Sport qui diffuse l'intégralité de la Coupe du Monde. Bonsoir Marcel Desailly.
Bonsoir tout le monde.
Ah ben on vous entend de très... Vous êtes vraiment très très loin Marcel. Ah voilà, on vous voit.
À Doha, pas si loin que ça.
Comment ça va Marcel ?
Plein d'énergie, on est sur une Coupe du Monde extraordinaire, la meilleure qui ait jamais été... réalisé.
La meilleure ?
Oui, parce que les infrastructures sont fantastiques. On a la possibilité de regarder 3 matchs dans la journée pendant la première partie du tournoi. Et on est sur une 5G. On a tous les transports et l'énergie footballistique sur le Middle East, c'est assez impressionnant.
Voilà, 5G, elle n'arrive pas jusqu'ici. Du coup, Marcel Desailly, on va simplement vous poser une question, la question qui brûle toutes les lèvres. France-Angleterre, quart de finale, samedi prochain. Déjà, un pronostic de votre côté ?
Non, mais la France est favorite dans la mesure que nous sommes les champions du monde et cette équipe anglaise est encore un peu jeune, tendre, avec du talent, certes, mais pas au niveau des individualités et du collectif que l'on a, nous, aujourd'hui, au sein de cette équipe de France, qui est juste fabuleuse. Oui, on a perdu le dernier match, je le sais, enfin, l'avant-dernier match, mais on est tellement fort.
Marcel Desailly, cet après-midi, Kylian Mbappé n'était pas à l'entraînement avec les autres joueurs de l'équipe de France, et on a vu Didier Deschamps s'entretenir avec le staff médical. Alors, sans être alarmiste, on ne sait pas grand-chose, en fait, de ce qui s'est passé sur place. Est-ce que ça peut être, vous qui le connaissez bien, Didier Deschamps, est-ce que ça peut être un coup de bluff ?
Non, mais il y a eu un jour de repos. Il y a eu la possibilité aux familles de venir voir les joueurs, à moins que je n'ai pas suivi l'actualité, mais il n'est pas hors la loi. Et puis, s'il l'est, il a dû s'entretenir. Vous savez, c'est un pro. Il nous a bien expliqué qu'il était vraiment concentré sur le sujet. Il est en train de devenir le meilleur joueur du monde, juste après Messi et Cristiano Ronaldo. Donc, je ne vois pas de polémique encore là-dessus.
Non, c'était pas pour soulever une polémique, c'est parce qu'on s'interrogeait sur la raison de l'absence de Kylian Mbappé au dernier entraînement des Bleus. On s'adressait aux spécialistes.
Si on se projette une dernière question au-delà du France-Angleterre dont on a parlé, vous la voyez aller au bout, cette équipe de France, malgré les blessés, malgré les absents ?
Alors, on a eu 5 absents majeurs dans cette équipe, hein, et malgré tout, on a une équipe extraordinaire qui peut aller au bout. On a la chance de ne pas rencontrer le Brésil. On est dans un groupe qui sera différent que le Brésil. Et on va les rencontrer seulement à la fin en finale, je dirais. Et on a la capacité vraiment à battre ce Brésil parce qu'on a vraiment, sur toutes les lignes, un potentiel qui est absolument énorme.
Ouais. Merci Marcel Desailly.
Merci beaucoup Marcel Desailly, en direct de Doha, ancien champion du monde, consultant beIN Sport, qui diffuse l'intégralité de cette Coupe du Monde. On n'a pas le Brésil, mais il y a peut-être le Maroc face à la France.
Alors,
attends, c'est ça surtout.
Est-ce qu'on est déjà, figurez-vous que la France pourrait croiser le Maroc en demi-finale si elle battait l'Angleterre, et si ensuite le Maroc battait le gagnant de Portugal-Suisse ce soir. Mais c'est l'événement de l'après-midi, le Maroc qui l'emporte et qui élimine les Espagnols après une séance de tir au but 0-0, après prolongation, séance de tir au but, avec notamment le défenseur du PSG, Achraf Hakimi, qui a marqué le dernier. Est-ce qu'on est déjà sur les Champs-Élysées ? En fait, je voudrais savoir, on a envoyé Louis Amar et Anaïs Roucouli en express sur les Champs-Élysées.
Il faut dire que
vous savez ce qu'on me dit dans l'oreille ? On me dit on a l'image, mais on ne sait pas si on a le son. Louis, vous m'entendez ?
Non, apparemment, il ne nous entend pas.
Mais il y a du monde, me disait-il par message juste avant.
Coucou. Ah, voilà, il nous entend.
Je vous entends, Mathieu.
Ah, mais non, c'était Babette qui te parle. C'est pas grave.
C'est Mathieu.
Alors...
Hello, je vous entends, je vous entends.
Grosse ambiance sur les Champs-Élysées, Louis-Ama.
Je sais pas si vous m'entendez, vous.
Oui, vas-y, shoot, shoot, on y va.
Bon. Ah, c'est pas un cadeau. On voit qu'il y a du monde.
Le gardien de but marocain, il en a arrêté trois. Hein.
Déjà, Mathieu.
Ouais. Les gens ont commencé... Trois. Les Espagnols n'en ont pas planté. Hein.
Mais... Et ils sont très fiers. C'est la fierté qui domine ce soir. C'est de la
alors, moi... Moi, je vais vous expliquer un truc. Je suis venu ici parce que le Maroc, c'est mon pays. Et mon Insta, c'est N-I-L-T-E-I. Merci à vous.
Viens, moi, viens. Les fans marocains, très nombreux, je vous le disais. Des fumigènes rouges et verts depuis tout à l'heure sur les
champs. On va laisser Louis Amar. On verra peut-être des images de fêtes qui vont tourner avec Anaïs Recouli ce soir. Peut-être qu'on aura des images de fêtes demain, les Marocains qui, et les Français d'origine marocaine qui se
qui
sont
ont
dirigés.
L'une de leurs anciennes puissances coloniales, parce que c'est ça aussi.
Notamment.
Les relations entre l'Espagne et le Maroc.
Aussi. qui
merci
sont rendues rapidement
sur les
bah non, mais pardon, mais je pense que c'est.
C'était premier degré. Ah
bon, d'accord.
En tout cas, c'était un bien beau premier JT de la Coupe du Monde. Je crois qu'on peut dire que c'était la réussite totale.
On mettra ça
un cadeau pour la France à
l'Europe. On reviendra peut-être demain avec ce JT de la Coupe du Monde. On revient à l'actualité française avec la menace de coupure d'électricité dans les semaines à venir.
Une inquiétude en particulier, Babette, celle des patients soignés à domicile. On parle de plus en plus de délestage. Or, de nombreux Français sont soignés à domicile à l'aide de matériel médical électrifié.
Concrètement, avez-vous pensé aux milliers de personnes sous assistance respiratoire, aux porteurs d'un cœur artificiel qui doivent recharger leur batterie? Nos concitoyens doivent-ils investir dans des groupes électrogènes en urgence, Madame la Première ministre?
Nous sommes à la manœuvre pour que ces délestages n'arrivent pas. Et je vous renvoie sur les prévisions de RTE qui l'ont dit très clairement, ces scénarios extrêmes, il intervient qu'en ultime recours pour protéger notre système énergétique plutôt que d'affoler les Français. Soyez à nos côtés pour travailler et faire en sorte que cet hiver se passe dans les meilleures conditions.
Le courant est garanti dans les hôpitaux, mais pas forcément au domicile des patients soignés, vous l'aurez compris, avec des respirateurs par exemple. Et hier soir, le porte-parole d'Enedis ne s'est pas montré franchement rassurant.
Les patients qui sont en haut risque vital ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures. Pour autant, on a une attention particulière à leur égard. On les prévient, ils ont un numéro de téléphone dédié qu'ils peuvent appeler pour avoir toutes les informations nécessaires.
Les patients à haut risque seront prévenus deux jours avant. Ils seront aidés, devront quitter leur logement, en revanche, qui ne sera pas plus électrifié. Louis Amar et Anaïs Recouli ont rencontré un des représentants inquiets de l'association France Handicap.
Nous alertons qu'un certain nombre d'autres personnes, notamment en situation de handicap, sont concernées par les coupures de courant et que leur vie peut être aussi en danger. On a des personnes en situation de handicap qui ne sont pas forcément malades, le manque d'électricité pourrait avoir un impact donc sur l'état de santé, notamment elles ne peuvent pas se lever, elles peuvent rester toute la journée alitées, ça peut avoir des conséquences, ou de ne pas pouvoir utiliser un matelas vraiment adapté, ou de rester dans un hall d'immeuble pendant deux heures alors qu'il fait froid.
Et après les différentes tergiversations de ministres, après les alertes comme celles qu'on vient d'entendre d'opérateurs, c'est Emmanuel Macron qui a sifflé la fin de la récré ce matin. Depuis un sommet européen en Albanie, il a dit stop au scénario de la peur.
Ce débat est absurde. Est absurde. Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Et donc, le rôle du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. Et ensuite, c'est d'appeler chacun à la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme j'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver, malgré la guerre, et donc je demande à chacun de faire son travail.
Une réaction, docteur Sebag?
Moi, je suis extrêmement choqué par la personne qui a parlé. Qui
le patron, le porte-parole d'Enedis.
Mais qui il dit que ces gens ne sont pas prioritaires. Vous savez ce que sont les gens? Alors, vous avez les respirateurs, parfois il y a des batteries, mais vous avez les lits. Les lits sont gonflables, ils sont électriques, on les monte, on les descend pour faire sortir les gens. Quand vous n'avez plus d'électricité, ça se dégonfle. Il y a des escarres, il y a des matelas anti-escarres, mais il y en a beaucoup. Et si ces gens ne sont pas prioritaires, mais il va se passer quoi? Enfin, je veux dire, c'est... Alors, on va hospitaliser les gens, on va répertorier les gens effectivement à risque, mais il y en a des milliers, de gens comme ça. Et on va les mettre à l'hôpital où on n'a plus de lits aujourd'hui, on ferme des lits. Mmh. On fait quoi? Comment on peut faire ce type de remarque? Je veux dire, c'est alimenter la peur. Au contraire, il faut derrière travailler, essayer de...
Fournir. Mais non, mais il a été démonté.
Il a été démonté par le président de la République.
Pas seulement par le président de la République, par les autorités politiques et par plusieurs ministres. Effectivement, mais les personnes qui sont dans ce type de situation avec ces assistances médicales sont invitées à se signaler auprès. Il y aura un recensement complet via les préfectures. Et évidemment, les informations vont remonter. Et ce type de situation ne devrait pas arriver. Enfin,
il faudrait supprimer la prime de fin d'année du mec d'Enedis.
Oui, ou plus.
Les Ukrainiens continuent à se défendre désormais bien au-delà de leurs frontières.
Mais on a déjà évoqué des échanges de tirs ou de missiles au niveau de la frontière, mais vous le voyez sur cette carte, c'est bien au-delà de la frontière que frappent désormais les Ukrainiens. Des attaques aux drones, dont l'une à 200 km seulement de Moscou, une autre à quelques 700 km de la frontière, une troisième attaque à l'aube ce matin. On ne savait pas que les Ukrainiens étaient capables de toucher l'ennemi aussi loin de chez eux. Certains parlent déjà d'humiliation pour la Russie. Un autre élément gênant pour Moscou, un témoignage comme celui que vous allez entendre, recueilli par nos confrères de CNN, celui d'un Russe qui se bat dans cette guerre, mais qui se bat aux côtés des Ukrainiens.
So have you killed a lot of your countrymen?
A dozen and a half. I believe that these people who've broken the law of man and the law of God, I have no pity for them. I take them prisoner if I can, but most often I just have to kill them. I'm doing my military and Christian duty. I defend the Ukrainian people. And when Ukraine is free, I will carry my sword to Russia to free it from tyranny.
La guerre sur le front et puis la guerre de l'image, bien sûr. Vous vous souvenez du pont de Crimée frappé par l'Ukraine il y a 2 mois, pont qui relie la Crimée à la Russie. Vladimir Poutine s'est montré sur place en personne, au volant d'une voiture, le président russe venu constater l'avancée des travaux de réparation.
Эту часть железнодорожного моста.
С левой где-то срок называют 1 сентября, но посмотрим, где что можно подсократиться по сроку.
Ну, конечно, желательно бы подсократиться.
Voilà, une guerre qui se joue par des vidéos et des leaders.
Oui, aujourd'hui, Volodymyr Zelensky était dans le Donbass, etc. Ça continue, évidemment, sur ce terrain-là aussi.
Vous vouliez rajouter un mot sur la présence des Ukrainiens en France? Il y a peu de réfugiés ukrainiens en quelques secondes.
Leur courage, on pensait qu'il allait y avoir, après les attaques russes sur les infrastructures électriques, une arrivée très importante. On a un peu dans les pays limitrophes, mais on en a très peu en France. Et c'est bien l'idée de l'appel à la résilience, puisque c'est ça... qui a appelé aussi le président Zelensky.
Et à rester sur le territoire ukrainien.
Et donc à contrecarrer la volonté des Russes, qui est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un chaos de départ et de réfugiés. Pour l'instant, on ne l'a pas.
Merci beaucoup Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Merci docteur Robert Sebag. Voilà, faites-vous vacciner, portez des masques. C'est le message que vous êtes délivré ce soir sur le plateau de C'est à vous. Dans un instant, nos invités, Marc Lévy, le français le plus lu dans le monde, mais aussi Redcar, L'œil de Pierre, Le Vu et les actualités de Bertrand. A tout de suite. Et Caroline. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous et en vidéo, le replay bien sûr, c'est sur France.tv. À très vite.